Vous écoutez, on lit pour vous.
Petit lexique pour comprendre et combattre le harcèlement de rue. Un texte de Janie Poirier, paru le 28 août 2023 dans Urbania. Urbania, la ville de Montréal, le service de police de la ville de Montréal, SPVM, et la Société de transport de Montréal, STM, s'unissent pour vous sensibiliser au phénomène du harcèlement de rue et vous outiller si vous en êtes témoin. À Montréal, l'été, il fait beau, il fait chaud. Les fleurs affichent leurs couleurs, les gens aussi. Tout le monde profite de l'espace public et y circule librement, en toute quiétude d'esprit, en toute liberté, en toute confiance, en toute sécurité. Rêve ou réalité, on aimerait y croire. Mais lors d'une étude réalisée à l'automne 2021 auprès de 3324 Montréalaises et Montréalais, 2 personnes sur 3 ont déclaré avoir été victimes de harcèlement de rue à Montréal. De plus, certains groupes en sont davantage la cible. 69% des femmes cisgenres déclarent en avoir vécu. La majorité d'entre elles affirme même y avoir été confrontée dès l'âge de 10 ans. La proportion grimpe à 91,5% chez celles qui ont entre 18 et 24 ans et à 95% chez les personnes racisées, autochtones ou issues de la diversité de genre. Choquant, n'est-ce pas? C'est pourtant la réalité avec laquelle on doit composer. Puisque l'inaction n'est pas une option, il faut s'armer de solutions. Première étape, l'éducation. On a eu la chance de jaser avec Audrey Simard, du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, CEAF, travailleuse communautaire et militante contre le harcèlement de rue depuis 10 ans. Laissez-nous définir et débanaliser du même coup le harcèlement de rue grâce à quelques notions clés et à des pistes de solutions concrètes à privilégier pour le combattre. C'est parti. Harcèlement de rue. Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, non, le harcèlement de rue ne se déroule pas que dans la rue. Le harcèlement de rue se définit par tout propos ou comportement dégradant, intrusif et non consenti, commis par des inconnus, dans l'espace public, école, commerce, parc, transport en commun, réseaux sociaux, etc., en s'appuyant sur des rapports de pouvoir. Il prend parfois la forme de gestes banalisés, sifflements, regards insistants, remarques grossières, avances sexuelles, bruits de bisous, etc. Mais il couvre également des actes criminels, attouchements sexuels, menaces, utilisation de la force physique, etc. Il peut être de nature physique, sexuelle, psychologique, verbale ou non verbale. Il peut viser l'appartenance ethno-culturelle, la couleur de peau, la religion, l'origine, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. C'est pourquoi les cibles sont majoritairement et de façon disproportionnée des femmes, des jeunes filles, des membres de la communauté 2SLGBTQ+, des personnes autochtones et des personnes racisées. Plus une personne cumule des facteurs d'oppression, plus elle risque d'être la cible de harcèlement de rue. Par exemple, une femme noire appartenant à la communauté 2SLGBTQ+, est plus susceptible d'en être victime qu'un homme blanc hétérosexuel. D'où la nécessité de poser un regard intersectionnel sur cet enjeu. Il est important de noter qu'il n'existe pas de définition légale du harcèlement de rue au Canada. Il est donc possible que la définition qu'on en donne varie légèrement selon l'expert ou l'experte ou l'organisme consulté et qu'elle évolue selon les recherches. Témoin passif. Un témoin passif est une personne qui, face à un acte de harcèlement de rue, reste inactive et se détache de la situation, croyant qu'elle ne la concerne pas ou encore que quelqu'un d'autre interviendra. Si vous vous reconnaissez, pas de panique, ni de culpabilisation. C'est l'attitude adoptée par la majorité et plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Être témoin de harcèlement de rue peut provoquer une réponse émotive et réactiver des traumatismes psychiques, ébranler notre propre sentiment de sécurité si nous n'avons pas les outils nécessaires pour désamorcer la situation, nous forcer à intellectualiser ce qui se passe par peur d'intervenir avec des discours comme « ils doivent se connaître » ou « ce sont sûrement des blagues » ou « de la séduction ». Vous écoutez « Petit lexique pour comprendre et combattre le harcèlement de rue », un texte de Janie Poirier paru le 28 août 2023 dans Urbania. Témoin actif. Un témoin actif est une personne qui se positionne en allié de la victime lors d'une situation de harcèlement de rue et qui cherchera à influer positivement sur l'espace public. C'est une personne faisant preuve d'une bienveillance citoyenne et qui s'efforce de demeurer consciente de son environnement et de la présence de celles et de ceux qui l'entourent. Elle est consciente de son privilège dans une situation de harcèlement de rue et comprend si elle souhaite vivre dans un espace inclusif et sécuritaire pour tous et toutes, une part de responsabilité lui revient et qu'elle ne doit pas rester indifférente. Effet témoin ou effet spectateur. L'effet témoin est une expression consacrée en 1968 par deux chercheurs américains en psychologie sociale, John Darley et Bib Latané, qui ont démontré que plus il y a de personnes témoins d'une situation quelconque, plus les possibilités sont faibles qu'une d'elles intervienne, car la plupart se déresponsabilisent et s'attendent à ce que quelqu'un d'autre agisse. Comment briser ce réflexe de paralysie? Voici le truc. Premier soin. Un des éléments de base enseignés dans les cours de premier soin est d'interpeller directement un témoin ou une témoin de la scène en lui donnant une directive claire, comme « vous, avec le chandail vert, appelez l'ambulance ». Le même principe peut s'appeler lorsque vous êtes victime d'un acte de harcèlement de rue. Ainsi, vous pourriez vous adresser à un ou une témoin de votre choix en lui demandant, par exemple, de vous aider à vous sortir de la situation. Ça aurait pour résultat de contrecarrer l'effet témoin. De témoin passif à témoin actif, des gestes concrets à poser. Maintenant que la table est mise, quelle est la suite? Demandez-vous quel genre d'action vous pourriez poser face à une situation de harcèlement de rue. Et parce qu'on est ben dadon, pas besoin d'aller chercher les réponses très loin, on les a juste ici. La règle de base numéro 1, évaluez toujours les risques pour votre propre sécurité. Nul besoin de se mettre en danger pour soutenir quelqu'un d'autre. Et n'hésitez jamais à composer le 911 ou à demander l'aide de la police ou d'un responsable de la sécurité sur place. La règle de base numéro 2. Concentrez-vous sur la personne victime et ne perdez pas votre temps ni votre énergie avec la personne qui la harcèle. La règle de base numéro 3. Mettez fin à la situation le plus rapidement possible. L'objectif est de permettre à la personne victime de retrouver son sentiment de sécurité afin de pouvoir continuer à circuler dans l'espace public. Voici quelques suggestions d'actions à la fois simples et sécuritaires à poser. Détourner l'attention de la personne qui commet le harcèlement. Poser une question anodine à la personne victime, par exemple, demandez-lui l'heure ou l'itinéraire menant vers tel ou tel endroit. Faites semblant de la connaître en engageant une conversation avec elle. Dites-lui que vous êtes disponible si jamais elle a besoin d'aide, etc. Toutefois, si elle refuse, n'insistez pas. 2. Mobilisez d'autres témoins. Décrivez à voix haute l'acte commis par le harceleur pour que d'autres personnes en prennent conscience. Demandez directement l'appui de quelqu'un. Alliez-vous au personnel désigné de l'endroit, etc. 3. Documentez. Filmez ou photographiez la scène. Notez l'heure, la date et l'endroit, etc. Offrez ensuite à la personne victime de lui envoyer ses images qui pourraient faire office de preuve si elle souhaite porter plainte. 4. Soutenir la personne victime lorsque la situation est désamorcée. Offrez-lui du soutien, demandez-lui comment elle va, offrez-lui de la raccompagner quelque part, d'appeler un ou une proche, acceptez de témoigner à ses côtés si elle souhaite porter plainte aux autorités, etc. Qu'on le veuille ou non, la banalisation, l'inaction et l'indifférence face à une situation de harcèlement de rue contribuent à augmenter le seuil de tolérance sociale face à ces actes et à renforcer le sentiment d'impunité de ceux qui les commettent. En tant que témoin de ce type de violence, vous avez le pouvoir de changer les choses et de contribuer à une société où tout le monde a la possibilité d'occuper l'espace public et d'y circuler en toute quiétude d'esprit, en toute liberté, en toute confiance, en toute sécurité. Pour découvrir des outils et des ressources d'aide et pour comprendre l'importance du rôle essentiel de témoin dans une situation de harcèlement de rue, visitez le site web de l'initiative Témoins Agissons et celui du Centre d'éducation et d'action des femmes. Le harcèlement de rue, c'est non. C'était Petit Lexique pour comprendre et combattre le harcèlement de rue, un texte de Janie Poirier paru le 28 août 2023 dans Urbania.
Cam Story, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 28 juin 2023 dans le magazine Fugue. Ce fut un lancement assez inusité au café de la Sotte sur Saint-Laurent et qui a fait salle comble le 1er juin 2023. Mais de quoi s'agissait-il? Un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal lançait le balado Cam Story, camstory.ca, pour raconter les expériences vécues par des personnes qui pratiquent ou pratiquaient le camsex, sexe avec usage de drogue comme le crystal meth ou Tina, entre autres. Un travail de longue haleine entrepris depuis 2019. Parfois drôle, parfois interrogateur et souvent touchant, ces témoignages mettent en lumière un phénomène encore tabou dans la communauté LGBTQ+, d'ici. Une foule de plusieurs dizaines de personnes s'était donné rendez-vous dans ce petit café pour la présentation des chercheurs, mais également pour entendre plusieurs extraits du balado, podcast. Le plus intéressant est que, normalement, un podcast s'écoute dans ses oreilles, de manière personnelle, en privé, presque dans sa bulle. Or là, c'était plutôt une expérience collective, les gens écoutaient attentivement avec beaucoup d'empathie, de solidarité, ils n'étaient pas sur leur téléphone, on sentait de l'émotion, il y avait ce besoin d'être connecté aux autres, de dire Olivier Ferlat, le chercheur principal et professeur adjoint, chercheur boursier junior 1 du Fonds de recherche du Québec Santé. La stigmatisation, la discrimination, le rejet, la recherche de soi, le sexe, la drogue, l'isolement, la dépression ne sont que quelques-uns des nombreux thèmes abordés dans les témoignages des participants à ce balado. Ce balado est une mine d'or sur la communauté parce qu'on y parle d'identité de genre, de sexualité, de stigmatisation d'expériences très personnelles, etc. À écouter les voix des personnes concernées, j'en ai presque des larmes aux yeux parce que c'est rare de les entendre s'exprimer souvent ainsi, souligne Olivier Ferlat, qui est au département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l'Université de Montréal. Même si cela est une recherche universitaire, les gens apprennent à travers des formations techniques à faire leur propre balado. Ce sont eux qui décident des sujets qu'ils vont aborder et s'ils vont le faire avec leur propre voix ou de manière anonyme, avec la voix déguisée. Comme le disait un participant dans l'un des extraits qu'on a pu entendre, on choisit de consommer, mais pas de devenir dépendant. Combien de fois a-t-on pu entendre en effet des histoires d'overdose, d'individus qui perdent leur emploi, leurs économies, qui tentent de se suicider, etc. Cela m'a pris 4 thérapies et 10 ans d'expérience pour comprendre et pour trouver comment vivre avec cette dépendance qu'est le chemsex, d'expliquer André Patry, un militant de longue date et participant au balado Camp Story. Une maladie nouvelle et particulière à la communauté gay. Je ne me suis jamais vraiment reconnu dans les thérapies en toxicomanie et j'avoue que les intervenants que j'ai fréquentés avaient peu ou pas de connaissances ni sur le phénomène, ni sur la culture et la communauté des personnes consommatrices de chemsex. Humblement, je me suis donc dit qu'avec mes expériences et mon vécu, je pouvais peut-être éclairer ou du moins sensibiliser les personnes qui s'interrogent sur la question. C'est drôle, mais je me sens animé par la même mission que j'avais dans les années 1990 lorsque je militais pour les droits des gays et lesbiennes. Je voulais que les gens comprennent ce qu'est le jugement et l'ostracisation d'un groupe de personnes par la société qui l'entoure. N'en reste pas moins que je demeure réaliste, car, pour être honnête, je ne pense pas que l'on peut comprendre les effets de cette drogue si on n'a jamais vécu ce qu'est le chemsex sur le cristal. Les sensations sont inhumaines et tellement intenses que si je peux vulgariser, sensibiliser et éduquer les gens sur cette réalité, ma mission sera réussie. Camp Story ne ressemble à aucune autre chose. C'est aussi une communauté de gens qui racontent leur histoire, a souligné pour sa part Patrice Saint-Amour, le coordonnateur du programme Camp Story. Un financement des Instituts de recherche en santé du Canada, IRCS, permettra au programme de se poursuivre pour y inclure en tout 90 épisodes, donc l'enregistrement continuera pour 2 à 3 ans supplémentaires. Nous espérons aussi que cette recherche, avec les expériences des participants au balado, nous permettra d'avoir de meilleurs services d'aide et de soutien à ces personnes-là et de faire tomber les préjugés et changer ainsi les mentalités, croit Olivier Ferlatte. Ces balados sont disponibles sur campstory.ca, sur Spotify ou sur d'autres plateformes gratuites. Petite note ici, le visuel du projet Camp Story a été conçu par l'artiste-dessinateur Sylvain Rolandeau, au Mondou, que l'on a vu l'an dernier au Festival Montréal en art et qui récidivera cet été encore. C'était Camp Story, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 juin 2023 dans le magazine Fugue.
En route vers les îles, un texte de Karine Wilder, paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge. Huis clos par excellence, l'île peut être le théâtre d'innombrables péripéties. 5 romans coup de cœur en témoignent. Tropique de la violence. Départ immédiat pour Mayotte, une petite île française nichée dans l'océan Indien. Là-bas, on pourra suivre l'histoire de Moïse, dont la mère adoptive vient de mourir. N'ayant plus personne pour s'occuper de lui, il devra se joindre aux jeunes orphelins du bidonville de Gaza, lequel est malheureusement régenté par Bruce, une ordure de première sans foi ni loi. Un superbe roman qui a d'ailleurs reçu de très nombreux prix. Natacha Apana, édition Folio, 192 pages, $14.50, ou $12.99 en version numérique. L'Aigle noir. Après Mayotte, l'île de la Réunion. Ex-commandant à la criminelle de Lyon, Paul Kessler y a été envoyé afin de déterminer si le fils d'un riche industriel est mort de façon accidentelle ou non. À ce stade, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de ne surtout pas croiser la route du très funeste sorcier vaudou qui s'est installé dans le coin. Honnêtement, difficile de trouver lecture plus palpitante. Jacques Saussé, édition Fleuve, 528 pages, $43.95. Sequan Island. Maintenant, cap sur l'îlot désert d'Alaska, où Jim a décidé d'aller vivre pendant un certain temps avec son fils de 13 ans, même si aucun d'eux n'y est mentalement préparé. Dans ces conditions, on peut s'attendre au pire. Et même là, on sera loin d'imaginer ce qu'ils devront traverser.
S'il y a des romans plus marquants que d'autres, celui-ci est carrément du genre indélébile. David Vann, édition Folio, 192 pages, $14.75 ou $13.99 en version numérique. Le choix. Vivement les Siciles, où il n'y a ni ours ni froids extrêmes. Ici, c'est plutôt des hommes qu'il faut se méfier, car jusqu'en 1981, un individu qui agressait sexuellement une femme pouvait s'en tirer sans purger la moindre peine s'il épousait sa victime. Cet excellent roman raconte la bataille d'une jeune fille qui, au début des années 1960, refusera de se plier à cette loi inique et d'avoir un violeur pour mari. Viola Ardone, édition Albin Michel, 400 pages, $34.95 ou $23.99 en version numérique. Solac. Là, on triche un tout petit peu. L'intrigue de ce court roman se déroulant sur une presqu'île au nord du cercle polaire. S'y trouvent deux soldats chargés d'en défendre le territoire et un scientifique qui y mesure la glace. Mais à quelques jours de la grande nuit arctique, l'arrivée d'un soldat muet viendra mettre le feu aux poudres. Glaçant. Caroline Hinault, édition du Rouergue, 128 pages, $29.95 ou $17.99 en version numérique. C'était « En route vers les îles », un texte de Karine Wilder paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge.
Parkinson, un nouveau traitement non-invasif? Par Bénédicte Saltin-Lassalle, paru dans Pour la science, août 2022. Une solution pour supprimer les effets secondaires liés au traitement de la maladie de Parkinson, stimuler le cervelet. La maladie de Parkinson s'accompagne de symptômes moteurs handicapants, tremblements, rigidité des muscles, lenteur des mouvements, qui peuvent être atténués par un médicament, la L-DOPA ou levodopa. Mais ce traitement a deux inconvénients. Une proportion non négligeable des patients n'y réagit pas du tout, sans que l'on comprenne pourquoi, et pour ceux qui vont mieux, le répit n'est souvent que de courte durée. Ainsi, 50 à 80 % de ces personnes finissent par développer, en 5 à 10 ans, des effets secondaires, des mouvements anormaux nommés dyskinésie. Toutefois, l'équipe, emmenée par Daniela Popa, de l'École normale supérieure de Paris, vient de prouver l'efficacité d'un traitement atypique qui évite les dyskinésies, la stimulation du cervelet. Quel est le lien avec le cervelet? Les symptômes de la maladie de Parkinson sont dus à la mort, lente mais inéluctable, des neurones dopaminergiques du striatum qui se projettent dans divers autres noyaux cérébraux centraux, notamment la substance noire. La levodopa compense la perte de dopamine dans la substance noire, réduisant en grande partie les troubles moteurs, mais donne souvent naissance à des dyskinésies. Chez les hommes, les primates et les rongeurs, ces dernières sont dues à des anomalies de fonctionnement des neurones dans diverses régions du cerveau impliquées dans la motricité. Ganglions de la base, où se trouvent la substance noire et le striatum, thalamus, un important carrefour cérébral, et cortex moteur. Or, le cervelet se trouve bien loin de là, à l'arrière du cerveau. Cependant, un type particulier de neurones du cervelet, les cellules de Purkinje, se projettent sur l'ensemble des aires cérébrales impliquées dans les dyskinésies. C'est cette connexion qui a inspiré l'équipe de Daniela Popa. Les chercheurs ont modifié les cellules de Purkinje dans le cervelet de souris vivantes, développant une pathologie similaire à la maladie de Parkinson, afin d'exciter ces cellules quand on les stimule par optogénétique, c'est-à-dire en les éclairant avec de la lumière laser. Résultat, les souris parkinsoniennes et traitées à la levodopa depuis quelque temps et dont on a excité les cellules de Purkinje 2 minutes par jour, voient leur dyskinésie disparaître presque complètement, voire ne jamais se manifester, contrairement aux rongeurs non stimulés. La stimulation rétablirait une activité électrique normale, non seulement dans le cervelet, mais aussi dans le thalamus, le cortex moteur et le striatum, c'est-à-dire dans tout le circuit moteur défaillant sous levodopa. Et ce, via des mécanismes de plasticité cellulaire, c'est-à-dire que les neurones se remodèlent et forment de nouvelles synapses. Reste à déterminer l'efficacité de ce nouveau traitement des dyskinésies sur le long cours et à l'optimiser chez les patients humains. Il serait notamment envisageable de stimuler leur cervelet sans percer le crâne par des stimulations transcrâniennes magnétiques grâce à une bobine placée contre leur tête pendant 2 minutes chaque jour, 30 minutes après l'absorption du médicament levodopa. C'était Parkinson, un nouveau traitement non invasif par Bénédicte Saltin-Lassalle, paru dans Pour la science, août 2022.